Incroyable.
Hier, sur un terrain, il y a eu un drame à Copenhague. C'était le match de l'Euro opposant le Danemark à la Finlande. Et puis, Christian Eriksen, le joueur danois, s'est effondré. Et tout de suite, ses coéquipiers, les spectateurs, les adversaires finlandais savaient qu'il avait un problème sérieux. Peut-être un AVC, peut-être un problème cardiaque. Marc-Antoine Doré est formateur pour les premiers répondants dans des situations comme les incidents impliquant le joueur danois hier. Mais aussi dans des situations comme par exemple celle de Jake Evans du Canadien de Montréal ou John Tavares des Maple Leafs de Toronto. Et il y a quelques années, rappelez-vous, Max Pacioretty, qui avait été tempé là, dans le coin de la baie vitrée et de la bande par Zdeno Chara. Marc-Antoine Doré, bonjour.
Bonjour, monsieur Wood, vous allez bien?
Ça va bien et on est content de savoir que ça va relativement bien pour le joueur danois hier. On ne craint pas pour sa vie là ce matin.
Effectivement, il y a très peu de détails encore sur toute l'intervention et sa condition, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va bien puis qu'il est sorti conscient et alerte du terrain. Donc, c'est une très bonne nouvelle.
Maxime Dupuis, qui est le rédacteur en chef adjoint de l'Eurosport, la grande chaîne, qui était en conversation avec nous, a dit, Marc-Antoine Doré, que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, en 2021, quand survient ce genre d'incident, les premiers répondants sur la pelouse, sur la patinoire, sur la surface de jeu, sont beaucoup mieux équipés qu'on l'était il y a à peine 20 ans.
Effectivement. Donc, les premiers répondants, comme vous dites, dans le milieu du sport, ce sont des thérapeutes du sport, donc des professionnels de la santé, dont un de nos mandats, c'est d'intervenir dans les situations d'urgence sportive. C'est une formation universitaire. Il y a beaucoup de formations continues qui doivent être faites sur l'intervention rapide sur le terrain pour justement amener du calme et un peu de raison dans des interventions très rapides et dynamiques comme on a vu hier ou comme vous l'avez mentionné au hockey dans les séries précédemment.
Il y a peut-être beaucoup de gens qui se posaient la question et qui se la posent encore ce matin. Comment se fait-il que ces athlètes qui sont dans une forme incroyable peuvent être victimes sans avertissement comme ça d'un malaise cardiaque ou d'un AVC? Il me semble qu'ils sont tellement suivis que c'est toujours étonnant de voir qu'ils s'effondrent d'un coup sur une surface de sport.
Effectivement, il y a plusieurs conditions qu'on connaît dans le milieu du sport qui peuvent amener à des morts subites. M. Eriksen a 27-28 ans, donc je dirais qu'il est légèrement vieux pour certaines catégories et trop jeune pour d'autres catégories. Donc, il tombe un peu dans une zone grise. Mais il y a plusieurs causes. Ça peut être soit des malformations cardiaques qu'on va voir. Règle générale, chez les plus jeunes adultes, c'est peut-être son cas. Ça peut être suite à des traumas, par exemple, le ballon au thorax qui va causer ce qu'on appelle un commotio cordis, qui peut causer un arrêt cardiaque, ce qui semble pas être le cas dans le cas de M. Eriksen. Le jeu se passait pas proche de lui à ce moment-là. Ou ça peut être aussi des problèmes électriques au niveau du cœur qui sont pas détectés si l'athlète se plaint pas de malaise avant. Donc, ça peut arriver soudainement. Je sais pas c'était quoi la météo hier à Copenhague, mais ça peut se passer dans des conditions tout à fait normales, un effort physique soutenu. Et voilà, c'est la combinaison parfaite pour un arrêt cardiaque soudain.
J'écoutais ce matin le médecin de l'équipe qui disait que lorsqu'il est arrivé à côté de lui, il respirait encore. Mais il dit, comme vous avez pu voir, après ça, on a dû appliquer les techniques de réanimation. Quand on le voit tomber, il a l'air inanimé, mais respire encore. C'est quoi? Comment ça se passe? C'est quoi le processus là, de l'arrêt cardiaque?
Oui, en fait, donc ça peut se faire instantanément ou ça peut se faire progressivement. Donc, si par exemple c'est un dérèglement électrique, le cœur va s'emballer, va continuer à battre, mais pas assez fort pour produire une bonne pompe cardiaque, si on veut. Le corps continue à fonctionner un peu, il y a des respirations qui deviennent inefficaces. Donc, c'est pour ça que quand on arrive sur un athlète qui est dans cette situation-là, c'est important de vérifier rapidement là, la présence des signes vitaux. Donc, est-ce qu'il y a un pouls, est-ce qu'il y a une bonne respiration? Rester à l'affût de ça. Et dans le contexte sportif, un athlète est dans l'arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand on voit un athlète s'effondrer comme ça, la première chose qu'on doit penser, c'est un arrêt cardiaque. Les respirations qu'il avait peuvent être ce qu'on appelle des respirations agonales, donc des respirations qui sont pas efficaces. Et puis là, il faut monitorer ça là, de manière très agressive. préparer l'intervention pour la défibrillation. Je crois que ça a été fait dans ce cas-là. On a vu le massage cardiaque, j'ai pas vu la défibrillation, mais les images, vous avez vu les joueurs qui se placent autour, les draps qui ont été placés. Ça, c'est un excellent travail. Pour commenter, c'est un peu plus dur, mais quand on est sur le terrain, là, on apprécie quand ça se fait autour de nous.
Marc-Antoine Doré, vous avez parlé de la chaleur. À ce stade-ci de la saison, ce sont les camps d'entraînement du football américain, notamment les équipes universitaires qui préparent leur saison, mais aussi la NFL qui va commencer chaque année. Marc-Antoine Doré, il y a soit un joueur de ligne, ou enfin un joueur qui est à l'entraînement, qui s'effondre sur le terrain. Vous avez parlé de la chaleur. Est-ce que nous avons, dans nos activités, qui ne sont pas aussi intenses que les joueurs de foot, est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour nous aussi de tenir compte de la chaleur, tenir compte de notre état de santé, avant de se lancer peut-être dans des activités dangereuses?
Oui, absolument, parce que là, on parle du sport professionnel ou de très haut niveau, mais c'est applicable aussi là, à nos guerriers du dimanche. La chaleur, c'est sournois quand on n'est pas habitué. Puis là, on a eu une vague de chaleur la semaine dernière. Il faisait beau, il y a le déconfinement qui arrive en même temps. C'est un peu un beau mélange explosif. Les gens veulent sortir dehors, ils n'ont pas couru depuis longtemps. Go, on va courir, puis on va courir longtemps et vite et fort. Mais en fait, notre corps doit s'habituer à la chaleur. Vous parliez des camps de football, c'est exactement la même chose qui se passe. Les athlètes s'entraînent à l'année, ils ont pris leur pause pendant le hors-saison, et puis là, on recommence 2-3 entraînements par jour, des températures très chaudes, des efforts physiques soutenus, un protocole d'hydratation qui est des fois mis un peu de côté parce qu'on s'entraîne, on s'entraîne pas. Il faut absolument éviter ça. Donc, il faut acclimater notre corps progressivement à la chaleur, maintenir nos bonnes habitudes de nutrition puis d'alimentation comme on le fait d'habitude, puis être à l'écoute de son corps. Ça, c'est très important.
Moi, j'ai une question, puis c'est dans le sujet, Paul, d'aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'il est fortement décommandé de tondre son gazon aux alentours de l'heure du souper?
Bon, j'écoutais votre conversation. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ça. Ceci étant dit, l'heure du souper est moins chaude que l'heure du dîner.
C'est ça. Voilà un autre argument. Marc-Antoine Doré, c'était très intéressant ce que vous nous avez raconté. Et puis tant mieux maintenant si toutes les équipes de sport, les grands événements sportifs comptent sur des gens comme vous, ce qu'on appelle des premiers répondants dans des situations variées. On l'a vu avec Jake Evans et l'incident avec Mark Shifley. C'est très important et c'est un secteur d'activité maintenant qui est très précis, mais extrêmement rigoureux et important.
Absolument. Puis, M. Hood, en même temps, je sais que vous êtes un grand fan d'athlétisme. Est-ce que vous avez suivi les performances incroyables des dernières semaines?
Oui, j'ai suivi ça parce que le record féminin, notamment, du 10 000 mètres, a été battu deux fois en 24 heures.
Oui, c'est assez incroyable.
Et ce que je trouve absolument incroyable, Marc-Antoine Doré, c'est qu'une femme, une Éthiopienne, court maintenant le 10 000 mètres en un peu plus de 29 minutes. 29 minutes, une seconde.
Oui. C'est incroyable. Paul, t'es une machine.
Non, mais je suis pas une machine. Non, c'est parce que j'ai de l'intérêt pour ça. Mais c'est incroyable. Si on m'avait dit que le record féminin du 10 000 mètres était pour être à 29 minutes, et vous savez qu'on progresse encore. Ben, vous êtes un amateur d'athlétisme, Marc-Antoine?
Oui, ça a été le sport avec lequel j'ai un ancien athlète, puis j'ai travaillé comme thérapeute et comme entraîneur pendant plusieurs années à l'athlétisme. Donc, c'est un sport que je suis attentivement.
Et vous devez le suivre de près parce qu'il y a eu toutes sortes d'incidents concernant des graves incidents qui sont survenus à des athlètes en compétition, en athlétisme, sur les pistes et sur la pelouse aussi. Merci beaucoup, Marc-Antoine Doré.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
On a appris beaucoup de choses.
C'est intéressant.
Hein?
Hey, parlant de gazon, Paul, je peux-tu faire une petite parenthèse?
Vas-y donc.
Le match de Félix Auger-Aliassime s'est joué dans un temps record. T'as même pas eu le temps de finir ton gazon, c'était fini.
Comment ça?
Malheureusement, écoute, tantôt quand on en a parlé, je suis allé voir tout de suite. Puis déjà, là, Marine Cilic avait pris les devants 7-6 dans la première manche et a remporté expéditivement la deuxième manche 6-3. Donc, ça s'est terminé même un peu avant 8 heures tout à l'heure. Donc.
Ah, ben, Félix qui est à recherche toujours de sa première victoire dans un tournoi d'importance, là, sa première victoire en finale.
Ouais, et c'était sur gazon, et je t'invite de téléphoner les gens de Stuttgart, parce que eux ont compris les verticales, mais n'ont pas compris les horizontaux. Donc, Félix Auger avait l'air de jouer sur un gazon qui était en prison.
Écoutez, là, je sais que mon équipe rit de moi. Ils se font plaisir.
Régulièrement, Paul.
Les auditeurs rient de moi aussi.
Non.
Je suis à la recherche désespérément d'un frère ou d'une sœur qui va me consoler en disant « Je faisais ça, moi aussi. Je coupais mon gazon en damier. » Il y en a un à Marieville.
Ben oui!
Catherine?
Oui.
Je serais déçu d'apprendre que Pierre Houde ne fait pas son gazon comme Paul.
Non.
Non, Pierre n'a jamais fait son gazon en damier.
On a un auditeur qui nous dit que ses parents à Marieville ont un voisin qui fait son gazon en damier.
On veut lui parler.
Ça lui prend des heures le samedi soir.
Je vais lui parler. Alors, on va essayer. Si vous êtes celui qui coupait le gazon en damier.
Appelez-nous.
Horizontaux et verticaux. Et c'est une technique, hein? Ça prend du temps,
non,
d'ailleurs, pour avoir un beau gazon.
C'est une obsession.
En échiquier. Mais c'est souvent, des fois, les petites obsessions, Thérèse, font les petits bonheurs.
Ben oui, c'est vrai.
On fait une pause.